quotidien. Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Bien, qu'est dit l'accord cadre sur la réforme de la sécurité? Vous savez, c'est depuis le 24 février 2013 que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région a été signé à Addis Abeba, en Éthiopie, par 9 pays qui partagent les frontières naturelles et artificielles avec la RD Congo, y compris la République sud-africaine, sous l'égide de l'ONU. Dans cet accord, le gouvernement congolais a souscrit à 6 engagements nationaux, dont le premier est celui de poursuivre et d'approfondir la réforme du secteur de sécurité, c'est-à-dire l'armée, de la police et de la justice, qui prévoit alors l'accord cadre d'Addis Abeba sur la réforme du secteur de la sécurité. Et quel bilan 2 ans après la signature de cet accord? Nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité, M. Gérard Toumba Kaniki, directeur des cabinets au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Monsieur Gérard, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Julien.
Alors, nous parlons aujourd'hui de l'accord cadre. Pouvez-vous nous rappeler les circonstances de la signature de cet accord?
Ok, merci cher journaliste. Je salue les auditeurs de notre chère Radio Capi qui nous écoutent à travers le territoire national. Alors, la fois passée avec votre confrère
Marcel Ngombo, oui,
nous avions parlé de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je voudrais en rappeler très rapidement les quelques points essentiels. Vous demandez les circonstances dans lesquelles cet accord a été signé.
Bien sûr.
Vous vous souviendrez que la partie, le flanc est de notre pays, notamment la ville de Goma, avait été occupée par les M23. Les FARDC qui étaient en train de monter en puissance sont parvenus à dégager le M23. Mais la communauté internationale ayant fait l'analyse de cette situation récurrente de conflit à l'Est avec tout l'arsenal de violences et des atrocités qui se manifestaient dans cette partie
du pays,
ont jugé bon, n'est-ce pas, de venir au chevet de la RDC. Quand on dit bien la communauté internationale, c'est alors vraiment toute la communauté internationale, parce que c'est l'ONU, c'est l'Union africaine, c'est la SADC et tous les pays de la région. Donc, il fallait mettre fin à cette situation récurrente. Et alors, il a été signé à Addis Abeba, comme vous avez dit, le 23 février de l'année 2013, cet accord que nous qualifions affectueusement d'accord de la paix, d'accord de l'espoir, parce que c'est même dans l'intitulé même du texte, c'est l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la RDC et toute la région entière. Alors, cet accord est articulé sur 3 niveaux. Pour rappel, il y a le niveau national avec ses 6 engagements, dont aujourd'hui le premier engagement nous allons essayer de nous pencher sur le premier engagement qui est donc celui relatif au secteur de la sécurité. Le deuxième engagement est de consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Le troisième engagement, c'est d'effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. Le quatrième, c'est de promouvoir le développement économique, y compris l'expansion des infrastructures et la fourniture des services sociaux de base. Le cinquième engagement est celui de promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances. Et enfin, le sixième engagement national, c'est de promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Au niveau régional, les États signataires de cet accord se sont engagés à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États voisins, de ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, renforcer la coopération régionale, respecter les préoccupations et les intérêts légitimes des États voisins, En particulier les questions relatives à la sécurité, ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide, etc. Et le dernier engagement, le septième du niveau régional, c'est de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la région.
D'accord, mais au niveau national, vous avez dit qu'il y a eu 6 engagements. Voilà. Et le premier engagement, c'est celui qui a trait à la réforme de la sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police et la justice. Alors, dans ces secteurs-là, quels sont les progrès déjà réalisés ?
Alors, si vous me permettez quelques secondes, que je termine le troisième étage de l'accord, qui est le niveau international, parce que la communauté internationale aussi, en signant cet accord,
a pris des engagements.
Oui. Dont le premier, qui émane du Conseil de sécurité, c'est que le Conseil de sécurité doit continuer à soutenir la stabilité à long terme en République démocratique du Congo. Alors, tous les partenaires bilatéraux se sont engagés à rester mobilisés pour soutenir la RDC et la région par des moyens appropriés pour assurer des actions à long terme. Un autre engagement est celui de revitaliser la CPGL, vous vous souvenez bien, la CPGL qui est une
communauté de pays des Grands Lacs.
Voilà, qui est une organisation régionale, qui est un peu en veilleuse, la communauté économique des pays des Grands Lacs. Et le dernier engagement est celui relatif à la MONUSCO, de faire en sorte que la MONUSCO puisse mener une revue stratégique afin de renforcer son appui au gouvernement de la RDC. Donc voilà. Alors, le dernier engagement qui est déjà mis en œuvre, c'est que le Conseil de sécurité devait nommer un envoyé spécial dans la région. Ça c'était déjà fait. À l'époque, c'était Mme Mary Robinson, qui est remplacée aujourd'hui par l'ambassadeur Saïd Djinnit. Donc voilà les trois étages qui composent l'accord cadre d'Addis Abeba. Maintenant, en ce qui concerne...
Au niveau national, en ce qui concerne la sécurité, la réforme de la sécurité.
Voilà. Alors, comme je le disais la fois passée, je comprends très bien l'impatience et l'inquiétude de nos compatriotes. Quand on parle de réforme, c'est-à-dire, c'est des processus. C'est un processus qu'il faut d'abord penser. Penser, écrire, et puis commencer à mettre en œuvre. En ce qui concerne le premier engagement, donc relatif au secteur de sécurité,
l'armée, la police,
dans l'esprit des anglo-saxons, le RSS, le réforme du secteur de sécurité, en fait, comprend les trois composantes, l'armée, la police,
la justice.
Et la justice, oui. Alors, en ce qui concerne l'armée, d'abord, pour arriver à mettre sur place une réforme efficace de l'armée, il faut d'abord se pencher sur tout ce qui est texte législatif organisant l'armée. Donc ça c'est vraiment un chantier, élaborer un ensemble de textes juridiques pour assurer un fonctionnement harmonieux de l'armée.
Est-ce que nous avons déjà ces textes-là ?
Il y a des textes qui ont été signés en termes de décrets, en termes d'ordonnances. Je ne les ai pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont encore en discussion pour le moment, en ce qui concerne l'organisation même de l'armée. Il y a le texte le plus important qui va définir dans les prochaines années quelle est la vision, quelle sera l'armée que la République démocratique du Congo veut mettre sur pied en termes d'hommes. Vous savez qu'il y a un recrutement qui est organisé. On est en train de recruter des jeunes pour renouveler nos effectifs. Il y a des officiers et d'autres hommes de troupes qui ont été, je crois, l'année passée ou l'année d'avant, mis à la retraite.
Mis à la retraite.
Voilà. Donc tout ça, ça répond à une réforme qui est en train de se mettre en place. Définir les troupes, définir les équipements que ces troupes doivent avoir, définir les infrastructures que ces troupes doivent avoir. Donc vous voyez que c'est vraiment...
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à ces jours, notre armée a déjà les infrastructures dont il faut, les équipements
Écoutez, il y a... Il y a un gros effort qui a été fait à ce jour avec l'aide de nos partenaires bilatéraux surtout. D'un côté, je peux citer la France, la Belgique et l'Union européenne qui ont aidé nos phares d'essai à réhabiliter certaines grandes écoles, des centres d'instruction qui ont été réhabilités et d'autres nouvelles structures, d'autres nouvelles infrastructures qui sont en cours de construction. Mais
aujourd'hui, l'école des officiers de Kananga est déjà,
on peut dire qu'elle
a été réhabilitée.
Tout à fait. L'école de Kananga a été réhabilitée avec l'aide, avec la coopération de la Belgique et une intervention de l'Union européenne. Pour te dire géographiquement plus ou moins comment les choses se présentent, du côté de Kisangani, nous sommes aidés par les Américains. Du côté de Kindu, c'est la Belgique qui nous aide. Du côté de Likasi, à l'école de Moura, c'est les Sud-Africains. Et du côté de Kamina, il y a une grande coopération qui est en place avec la Chine.
Mmh. Voilà. Bien, je reviens à vous dans quelques instants. Nous avons deux auditeurs en ligne. Michel Ebundé nous appelle des Kamina. Maître Gaston Gandou est à Kinshasa. Qu'est dit l'accord cadre sur la réforme de la sécurité? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec notre invité, M. Gérard Atumba Kaneki, directeur des cabinets au mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba.
C'est parce que Radio Capé unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Qu'est dit l'accord cadre sur la réforme de la sécurité? Michel Ebundé, vous êtes à Kamina. Bonjour. Michel, bonjour. Ben, Michel n'est plus là. Maître Gaston Gandou à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, merci.
On vous écoute, maître.
Je voulais juste que l'invité puisse un peu nous préciser la nature juridique de cet acte ici, parce que nous savons qu'au niveau international, il y a des organes, par exemple, comme il s'agit des Nations Unies, il y a des organes qui prennent des décisions. Par exemple, au niveau des conseils de sécurité, on parle des restrictions, et puis au niveau de l'Assemblée nationale, voire des institutions spécialisées, il y a des décisions qui sont prises là-bas et qui, des fois aussi, sont applicables au niveau des États parties à cette organisation. Mais je veux que l'invité puisse nous préciser, parce qu'on parle d'un accord des États de la région, mais nous connaissons tous l'origine de cet accord ici. Et puis, qui puisse nous parler des effets, parce qu'il a parlé des obligations qui incombent aux États, et parce que nous voyons aussi que ces États ne sont pas en mesure de respecter à la lettre tout ce qui soit de remédier aux problèmes qui, comme lui l'a posé, par exemple, nous, avec les FDLR, qui sont chez nous, qui constituent une menace pour l'autre État ou pour les autres. Il y a aussi des troubles par rapport aux aspects de l'air. Est-ce que cet accord a des effets sur la résolution de nos problèmes? Et puis, je vais juste atterrir par là. Que l'invité puisse un peu nous préciser les grands lacs avec son pacte là, parce que nous voyons un pacte là, il y a des objectifs qui sont plus que même ce qui est prévu dans cet accord. Je ne sais pas si c'est dans le cadre des grands lacs qu'on avait conclu ça, ou carrément c'est une injonction d'ailleurs, qui est un accord d'ailleurs, qui n'est même pas obligatoire. Est-ce que c'est vraiment important pour résoudre le problème du Congo qu'on puisse encore faire allusion à cet acte-là? Moi, je pense qu'il faut que les Congolais puissent voir ce qui est mieux pour eux, des innovations pour la souveraineté, parce que ça aussi, c'est brader la souveraineté.
D'accord.
Je peux nous préciser en soi, parce qu'on ne va pas clair là-dessus.
D'accord.
Et cet accord ici.
Bien, merci, Maître Gaston Gandou de Kinshasa. Monsieur Gérard, vous avez la parole.
Ok, je salue Maître Gaston C'est tout à fait normal qu'en tant qu'homme de droit qui pose une question qui a trait
aux
effets et surtout à la nature juridique de cet accord. Maître, je ne suis pas juriste, je ne vais pas le devenir en quelques minutes, mais j'ai cru comprendre que cet accord, la façon dont il a été mené et signé, même si dans certaines discussions avec les amis du Parlement, il n'a pas été ratifié par le Parlement, c'est un engagement, je crois, supranational. Cet accord se met au-dessus des lois de la République de par son envergure et de par son étendue. Parce que si vous avez bien lu cet accord, il a une étendue très très large parce qu'il couvre la plupart des secteurs et des domaines de la vie politique nationale. Et il était nécessaire, en fait, ce qui nous est demandé au terme de cet accord,
oui.
Si jamais je devrais parler en français facile pour que la plupart de nos auditeurs puissent nous suivre, c'est que c'est la plus grosse recommandation qui répond aux reproches qui sont faits à la RDC. En fait, on nous demande, si vous lisez bien cet accord, on demande à la RDC de devenir un pays normal. Un pays normal, c'est un pays qui a une armée, qui est capable de défendre
les frontières nationales, avoir une police.
Voilà, avoir une police.
Un système judiciaire qui fonctionne bien.
Voilà.
L'appareil judiciaire.
Voilà, c'est tout ça qui nous est demandé, parce que même dans l'engagement numéro 4 qui a trait à la promotion du développement économique, nous avons tellement de choses à offrir que la gestion de nos ressources, parce que ces guerres à répétition qui viennent sur ce flanc-là.
Il a parlé de l'air, il affirme qu'il a l'impression que les pays qui ont pris des engagements ne les respectent pas à la lettre.
Oui, tout à fait. Maître, je ne sais pas si Maître avait suivi la première émission de la série que nous avons faite. Il y avait des auditeurs qui avaient posé ce genre de questions et j'avais expliqué qu'au niveau régional, il y a un dispositif qui a été mis en place, qui est appelé en anglais, c'est le Regional Oversight Mechanism, c'est-à-dire mécanisme de suivi régional, mécanisme régional de suivi, où, en principe, se réunissent les chefs d'État des pays signataires. Mais comme les présidents de la République sont...
Et donc, il était censé se réunir pour examiner, pour voir comment faire les suivis
Voilà. C'est un organe de suivi, oui. Donc c'est là qu'ils sont censés se réunir pour faire le suivi. Mais comme les présidents de la République ne sont pas des personnes qu'on peut réunir souvent, ils ont mis en place un organe technique qui les appuie, le comité d'appui technique, qui, lui, se réunit régulièrement pour préparer de la matière à soumettre à la réunion des chefs d'État. Les chefs d'État se réunissent au début de chaque année en marge de la session de l'OUA, ok, et ils se réunissent encore une fois, la prochaine fois ce sera au mois de septembre, en marge des assemblées générales des Nations Unies. C'est à ce niveau-là.
Pour faire le point, voilà, par rapport aux avancées.
Pour faire le point. Bon,
voir ce qui bloque.
Voilà. Mais comme je disais, bon, c'est quand même des chefs d'État, il s'agit des grandes personnalités. Celui qui a fauté, on ne va pas le taper sur les doigts en disant que tu as fauté. Il y a des mécanismes, des termes diplomatiques qui sont utilisés pour faire comprendre aux pays qui traînent. Si jamais vous avez suivi dernièrement les interventions de l'ambassadeur Djinit à ce point-là, même au niveau du Conseil de sécurité, le rapport qui a été présenté le 14 juillet par M. Kobler, au niveau du Conseil de sécurité, on demande instamment aux pays de la région, à ceux qui traînent encore les pieds, de vraiment mettre en œuvre l'accord.
D'accord. Voilà, aujourd'hui nous parlons essentiellement de la réforme du secteur de la sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police et la justice. Nous avons en ligne Maître Omar Kigalo de Kinshasa. Maître, bonjour.
Bonjour, Judith Cassonnet, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup, j'ai trois questions. Mais avant, j'ai pris l'émission en cours, excusez-moi, je vais me répéter. Je voudrais répondre à Maître Gasson pour dire que lorsque deux ou plusieurs États s'engagent pour tout un problème à caractère international, la valeur juridique de cet acte est qu'il y ait un traité ou un accord international. Ça, c'était ma petite contribution. Première question, L'objectif principal de l'accord de l'UFO est de stabiliser et de pacifier la région des Grands-Mérates. Ce jour, on se rend compte que cette objectif principal n'a pas été atteint. Ça, c'est mon avis. Je voudrais que l'invité me dise quelle est, selon lui, les principales causes. Parce que certains estiment que si aujourd'hui les États africains n'arrivent pas à respecter leurs accords, c'est parce que tant il y a un manque de volonté politique de la part de leurs dirigeants. Deux, il y a un manque d'unité, une tension de paix. Et trois, il y a la présence d'intérêts des étrangers. Est-ce qu'il faut affirmer ou affirmer cela? Troisième question, quelles sont les sanctions qui sont réservées au niveau régional à l'État qui n'arrive pas à respecter les engagements qui ont été pris? La RDC a un mécanisme mis en marche. On se rend compte que le Rwanda et l'Ouganda de notre pays ne respectent pas. Au niveau régional, qu'est-ce qui a été décidé en termes de sanctions à l'égard des États qui violent toujours les accords qu'ils ont eux-mêmes signés? Voilà mes préoccupations, je dis clairement, j'ai dit et je vous remercie.
Bien, monsieur Gérard, vous avez la parole.
Je remercie l'intervenant qui a posé, qui a soulevé des questions très 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 pertinentes. Maître, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est bien, c'est vrai, les points que vous avez soulevés. Il y a des pays de la région qui traînent les pieds dans, mmh. dans la mise en œuvre de l'accord cadre. Et ce n'est pas un secret. La RDC est parmi les rares pays signataires de cet accord qui s'emploie vraiment à respecter ses engagements. Alors,
D'après lui, cet accord souffre aujourd'hui par rapport à son application. L'objectif était de stabiliser la région des Grands Lacs. Et
le constat que Maître a fait, nous l'avons fait aussi. Mm-hmm. Et ce n'est pas un secret que je vais dévoiler ici si je dis que dernièrement, lors d'un sommet des chefs d'État, c'était un sommet ministériel qui s'est tenu en Afrique du Sud, il a été convenu d'organiser une retraite ministérielle au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays de la région. Et cette retraite a eu lieu il y a environ 2 semaines à Nairobi. Et un des objectifs essentiels de cette retraite, c'était de redéfinir la gouvernance du mécanisme régional de suivi, parce que justement on s'est rendu compte que le montage tel qu'il a été fait, qu'il n'y a pas des actions contraignantes vis-à-vis des personnes qui traîneraient les pieds dans l'application de l'accord. Et si on a changé, on a pensé à améliorer cette gouvernance, c'est parce que justement ce constat a été fait. Et nous devons attendre le document final qui est en cours de qui est en cours de finalisation oui. Entre les différents participants pour qu'on puisse maintenant savoir
est-ce qu'il y a des sanctions réservées aux pays qui violent les accords leurs propres engagements.
Dans l'accord cadre tel qu'il a été signé, non.
Il n'y a pas de sanctions.
Il n'y a pas de sanctions. Maintenant, dans la révision pour améliorer la gouvernance, je ne peux pas dire ce qui a été prévu à ce niveau-là.
D'accord. Alors rapidement, comme aujourd'hui nous parlons de la réforme du secteur de la sécurité, vous avez parlé de l'armée, vous dites qu'il y a quand même des efforts qui sont fournis de ce côté-là pour réformer l'armée, mais du côté de la police, comment ça évolue?
Je vais continuer sur l'armée avant de venir à la police, parce que on ne parle pas suffisamment des choses qui sont faites. Hein. Mmh. C'est vrai que nos compatriotes voudraient voir les choses changer dès le lendemain, mais comme je le disais encore au début, une réforme est un processus qui peut s'étendre sur plusieurs années. Alors, l'essentiel de la réforme, comme je disais, concerne les hommes, concerne les équipements, concerne l'organisation, concerne les infrastructures. Oui. En ce qui concerne les hommes, nous avons tous été heureux de voir qu'il y a un long processus qui a mené à l'identification des militaires. Aujourd'hui, l'effectif global de l'armée a été assaini Hein, et chaque soldat, aujourd'hui on peut dire 85 et 90% des militaires sont dotés d'une carte militaire biométrique. Donc vous voyez quand même que c'est un effort qui a été fait. On peut aussi parler de la bancarisation de la paye des hommes des troupes.
La solde des hommes des troupes.
Voilà, hein, ils sont pour la plupart environ à ce jour 90% aussi payés via la banque. Je parlais tout à l'heure des écoles et des centres d'instruction qui étaient fermés et qui ont été réouverts. Alors, vous entendez souvent parler de brigades à réaction rapide. Là, je vais effleurer un point qui touche un peu même à l'organisation de la MONUSCO. C'est des points qui sont en train d'être...
Brigades à réaction rapide. Et voilà. Cette brigade est déjà mise sur pied.
Voilà, il y a des brigades qui sont déjà sur pied. Pour le moment, il y en a trois. Il y a la 11e brigade qui a été formée par les Chinois. Hein, avec trois bataillons, le 111e, 112e et 113e, et dont le quartier général est à Maluku.
Oui.
Cette brigade a fait essentiellement ses preuves dans les opérations qui ont permis à dégager les M23, et c'est eux qui sont actuellement au front contre les ADF Nalu, dans la région. Il y a la 21e brigade qui a été formée par les Sud-Africains à Moura, au Katanga, aussi avec trois bataillons, donc la 211, 212 et 213, dont le quartier général est à Mitwaba. Et il y a la 31e brigade qui a été formée par les Belges, donc à Kindu, et qui est déployée dans le nord, avec trois bataillons aussi, 311, 312 et 313, dont le quartier général se trouve à Kindu. En fait, ce sont ces brigades à réaction rapide qui sont appelées dans le futur à reprendre...
à reconquérir, à sécuriser
les territoires nationaux. Disons, à remplacer les troupes de la MONUSCO. Aujourd'hui, quand on parle de monter en puissance des FARDC, c'est essentiellement ces trois brigades qui sont déjà à pied d'œuvre. Donc ça, c'est des brigades qui sont dont les effectifs aujourd'hui sont organiques tels qu'ils étaient prévus et sont dotés des équipements individuels et collectifs tels que définis par la réforme de l'armée. Maintenant,
donc on peut dire que ces brigades sont aujourd'hui à mesure d'écraser toute rébellion qui peut surgir dans un coin ou dans un autre du pays.
Écoutez, c'est un début. On en a déjà trois. Oui. Il y en a d'autres à venir parce que il s'agit de remplacer l'effectif de plus ou moins 17 000 hommes. À échéance, ce sont ces hommes qui remplaceront les forces de la MONUSCO qui sont dans le pays.
D'accord, on va accueillir trois auditeurs. Etienne Bitelegemena, Fiston Kabamba, Likasi, Augustin Katanga, nous appelle de Kindu. On commence avec vous, Etienne Degemena. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et bonjour à l'invité.
Alors, rapidement, quelle est votre question par rapport à la réforme du secteur de la sécurité?
Ok, merci monsieur le journaliste. Par rapport à cette réforme de la sécurité à travers notre pays, il est vrai quand même, comme j'ai suivi l'invité dur là, que quand même c'est la force d'un pays, c'est lorsque ce pays quand même a une armée dissuasive et qui a une police qui défend les personnes, qui garde les personnes et leurs biens. Oui. Toutes ces réformes, oui, d'accord. Théoriquement, on sent que la réforme existe, mais pratiquement, à mon avis, non. Pourquoi je le dis? Parce que, monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas croire qu'au jour d'aujourd'hui, des petites milices qui continuent à souffrir, nos frères et sœurs de l'Est du pays, et quand même qu'on parle de certaines avancées, mais sinon ces avancées ne sont pas tellement significatives et que vous voyez, les jours au jour, il y a que de petites milices, il y a de petites rébellions, ainsi de suite. Et vous serez d'accord avec moi, même quand le président ougandais a dit qu'il puisse quand même être ensemble avec l'armée congolaise afin de traquer les ADF ou les rebelles qui sont de ce côté-là.
D'accord.
S'agissant de la police,
oui.
Le journaliste,
oui, oui.
Vous allez voir que l'objectif principal de la police, sa mission est de garder les personnes et leurs biens.
Oui.
Mais quelque peu à travers le pays, on ne voit pas tellement ce travail-là de garder les personnes et leurs biens. Vous comprendrez avec moi qu'étant à Kinshasa, à l'est du pays, à l'ouest même chez nous, donc vous comprendrez que l'insécurité gangrène Donc le pays. Ça
alors,
là,
passez rapidement. Oui, d'accord. D'accord, on a compris. Étienne, on a compris.
Doit être pratique au lieu d'être théorique, monsieur le journaliste.
D'accord. Merci, on a compris. Fiston Kabamba, vous êtes à l'ICACI. Soyez bref. Quelle est votre question? Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Allez-y rapidement.
La première question, c'est ici. Pourquoi pas le pays qui ne respecte pas les accords? Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions qu'on peut assiger à le pays qui ne respecte pas les accords. Ma deuxième question, c'est ici. Mais nous dit que il y a les réformes à l'armée. On est un peu déformé l'armée par les Chinois et les Sud-Africains.
Mmh.
Mais quel est le budget qui était alloué à l'armée là et quoi? Qui est alloué à l'armée et la police? Les gens meurent de la faim et vous les formez. Pour aller faire quoi? Pour aller combattre qui? Et pour aller faire quoi? C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on est en train de dire que les Rwandais sont en train de tuer nos frères là-bas à l'Est. Parce que notre armée, les militaires ne mangent pas, les militaires ne vivent pas comme il faut. Mais les Sud-Africains, là, sont bien payés. Donc vous pouvez former quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui ne vit pas une vie normale. C'est tout, monsieur le journaliste.
Merci, Fiston Kabamba, dédicacé. Augustin Katanga, de Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur Goudi.
Nous parlons de D'accord, nous parlons de la réforme de la sécurité, de l'armée, la police et la justice. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela?
Par rapport à cela, il y a un constat d'abord amer. Le constat fait partie de quoi? Parfois, lorsqu'on signe, par exemple, les engagements, il n'y a jamais eu les sanctions. Et parmi les effets que je suis en train de remarquer, vous allez remarquer que dans les engagements qu'on est en train de faire, les partis, par exemple, qui ont fait l'engagement ne parviennent pas, par exemple, à respecter ces engagements-là.
Oui.
Concernant, vous êtes en train de parler qu'on est en train, par exemple, d'engager des militaires. On est en train d'engager des militaires, bien sûr, mais on est en train de voir que dans certains coins de la République, il n'y a pas de militaires. Ou soit dans certains coins de la République, il n'y a pas de police. Par exemple, à l'ex-province du Katanga. Vous allez remarquer que lorsque vous arrivez dans la nouvelle province de Olomami, précisément dans les territoires de Kabong, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de militaires, il n'y a pas un grand nombre de policiers. C'est ce qu'on est en train de remarquer. Pour ce qui concerne, vous êtes en train de parler qu'on a retraité des militaires. Combien de militaires qu'on a retraités? Nous voulons qu'on puisse avoir le nombre exact des militaires qu'on a retraités. Pour ce qui concerne la recommandation de l'accord, est-ce que la recommandation a été exécutée à combien de pourcentages? Je vous remercie.
Bien, merci Augustin Katanga de Kindu. Nous disons également merci à tous ces internautes qui nous ont écrit sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Je m'en vais rapidement à lire quelques réactions. Bélor Chidibi nous dit ceci. La RDC parle beaucoup de la réforme des FRDC et de la police, mais jamais on ne pense à améliorer les conditions de vie des ces derniers. Raison pour laquelle certaines zones du pays restent fragiles sans défense. Et étant témoin de ces accords, puisse l'ONU faire preuve de suivi. Voilà, c'est Bélor Chidibi qui nous a écrit, n'a pas dit dans quelle partie du pays il se trouve. Monsieur Gérard, vous avez suivi tout ce que les auditeurs ont dit rapidement?
Ok, je vais essayer de regrouper et répondre aux préoccupations des amis et frères Étienne de Guémena, Fiston de Licassi, Augustin de Kindu. Pour la question relative aux sanctions à infliger aux pays qui ne respectent pas les accords, je crois que j'en ai parlé dans cette émission. Il a été constaté effectivement au niveau du mécanisme régional de suivi cette faiblesse et dernièrement une retraite ministérielle a été organisée et avait pour objectif d'améliorer la gouvernance au niveau du mécanisme régional. Nous attendons les conclusions de cette retraite. Nous osons croire qu'il sera prévu des mécanismes pour contraindre chacun à respecter des accords qu'il a signé librement, hein, parce que ça il faut le souligner, l'engagement qui a été pris était fait librement et les pays s'étaient engagés à appliquer cet accord en toute souveraineté. Donc je crois qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là. Pour le reste, je comprends bien la préoccupation de mes compatriotes qui voudraient que les réformes se traduisent très rapidement en des choses visibles sur le terrain en ce qui concerne le comportement de nos hommes de troupes, aussi bien l'armée que la police. Mais je voudrais aussi leur rappeler ce que je disais au départ, je sais pas s'ils étaient au début de l'émission, les réformes, c'est essentiellement c'est des processus qui doivent être pensés, c'est des processus qui engagent des hommes, c'est des processus qui requièrent des moyens et les moyens il faut se dire que un effort est fait pour que ces moyens soient mis à disposition. Au niveau de la police, par exemple, il y a un document qu'ils appellent le PAQ, le plan annuel quinquennal, qui définit un certain nombre de choses, qui vise justement l'amélioration des conditions des hommes de troupes, hein, et je crois que l'assainissement qui est recommandé et qui est en train d'être fait aussi bien au niveau de l'armée que de la police vise justement cette efficacité, le renouvellement des effectifs avec l'engagement des nouvelles unités, la mise à la retraite qu'un de nos auditeurs voudrait savoir, si je ne m'abuse, pour le moment il y a plus de 2000 officiers de l'armée, parce que c'est essentiellement là qu'il y a eu qu'on a commencé à
céder. Il y a un auditeur qui a dit quel est le budget de l'armée aujourd'hui, parce que d'après lui les militaires meurent de faim, et comment voulez-vous parler de la réforme alors que
nous sommes un pays post-conflit, nous sortons d'une situation assez délicate avec une guerre qui nous a été imposée, qui a mobilisé pas mal de moyens, aussi bien financiers que humains, donc pour essayer d'éteindre ces foyers de tension. Je ne peux pas dire aujourd'hui de mémoire quel est le budget de l'armée ni de la police, mais il faut bien se mettre à l'esprit que ce qui devait être notre force paraît aujourd'hui comme notre faiblesse. C'est l'étendue du territoire national. J'espère qu'avec les mesures administratives qui sont en train d'être mises en place actuellement, la décentralisation dont on parlera dans une des prochaines émissions, ça va permettre à rapprocher le gouvernant des gouvernés, ça va permettre d'améliorer justement la mise en place des effectifs de la police pour assurer son rôle premier qui est celui de la sécurisation des personnes et des biens. Ça concourt aussi également à un engagement qui a été pris, qui est l'engagement numéro 2, à consolider l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République.
D'accord. Rapidement, je vais lire la réaction des bénédictions Migo de Bukavu, au sud Kivu. À mon humble avis, je crois que la réforme voulue par cet accord cadre du 23 février 2013 est hypothétique en RDC, car la police et l'armée sont devenues un dépotoir des gens non instruits et inciviques au service de la médiocrité. Mais l'État devrait nécessairement mettre du sérieux dans ces secteurs pour espérer avoir un État fort. Alors rapidement, parlons de la réforme du secteur de la justice. Qu'est-ce qui est déjà fait? Est-ce qu'il y a des avancées significatives dans ce domaine?
Oui, il y a des avancées significatives. Vous savez bien que la faiblesse était que il y avait des juridictions qui n'étaient pas encore mises en place. Aujourd'hui, on a la Cour constitutionnelle qui est mise en place, on a le Conseil d'État, on a la Cour de cassation, on a la Cour comment on appelle ça, le Conseil supérieur de la magistrature qui est opérationnel aujourd'hui. Il y a toute une série de textes qui sont encore en examen au niveau de l'Assemblée pour venir renforcer l'arsenal juridique de du secteur. Il faut aussi épingler l'organisation récemment de l'État, des États généraux de la justice, qui ont produit un rapport de pas moins de 200 pages, avec beaucoup de recommandations qui doivent être faites justement pour améliorer l'administration de la justice dans notre pays. Ça a toujours été une faiblesse, et comme on sait très bien que la démocratie, le socle de la démocratie dans tous les pays, c'est la justice. Donc nous avons tout intérêt à ce que notre secteur judiciaire soit performant, que les magistrats soient bien payés, pour les mettre à l'abri des sollicitations et des tentations. Il y a pas mal de lois, on pourra peut-être y revenir beaucoup plus en détail
prochainement, parce qu'on n'a plus de temps aujourd'hui.
Voilà, dans une autre émission, mais il y a des efforts qui sont faits. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'on a dans ce domaine connu tellement de retard que les efforts qui sont faits ne sont pas encore perceptibles.
Oui.
Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que la mise en place de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, la Cour de cassation, tout ça, c'est vraiment une avancée qui va permettre de rétablir un peu certaines faiblesses qui étaient relevées dans le secteur de la justice.
Bien, merci Monsieur Gérard Toumba Kaniki. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet au mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Bon, voilà, à la prochaine.